Propriétaires immobiliers, 8h10. L'invité actu Camille Chaise, porte-parole du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Et puis, 9h moins de quart, les incontournables de Julia Vignali. Son invité aujourd'hui, Patrick Timsit, pour la deuxième édition du festival Uzès, seul en scène. Vous écoutez Europe 1, il est 6h lors d'un premier journal. Et merci d'être avec nous sur Europe 1 ce matin. Premier journal qui vous est présenté par Thomas Schnell. Bonjour Thomas.
Europe 1 matin week-end.
6h, 9h.
Cédric Chasseur.
Bonjour Cédric et bonjour à tous. 14 et 15 ans, c'est l'âge des deux jeunes qui viennent de passer leur première nuit en prison pour avoir tabassé à mort Philippe à Grande-Synthe, qui n'était peut-être pas la cible initiale du guet-apens.
À la une également, que voulait l'homme qui s'est introduit au consulat iranien à Paris? Il a pénétré dans l'enceinte diplomatique avec une fausse ceinture d'explosifs.
Et puis un mouvement de terrain sur la 13, c'est l'axe principal entre Paris et la Normandie qui est fermé au moins jusqu'à lundi. De quoi compliquer les retours de vacances scolaire et reporter le trafic dans les communes voisines, vous l'entendrez.
À suivre dans la prochaine demi-heure, la note secrète de Fabrice Lafitte, et je crois qu'on va se déhancher aujourd'hui.
Oui, avec le groupe originaire de Los Angeles, Black Eyed Peas, I Got a Feeling.
On parlera aussi d'immobilier avec Christophe Bordet, ce sera donc après les informations, et la tendance météo d'Anthony Kaczmarek.
Avec encore des nuages et des averses sur un très large quart nord-est jusqu'aux Alpes et jusqu'en Île-de-France. Plus à l'ouest et plus au sud du soleil, mais des températures froides partout, souvent entre 9 et 19 degrés à peine cet après-midi.
Europe 1.
Beaucoup d'émotions à Grande-Synthe dans le Nord après la mort de Philippe Kopmann.
Une marche blanche a réuni près de 2000 participants hier en hommage à ce jeune homme de 22 ans, tabassé sur un parking et laissé pour mort sur le bitume. Deux jeunes de 14 et 15 ans ont été arrêtés et mis en examen pour assassinat. L'un d'eux a reconnu l'organisation d'un guet-apens via un site de rencontre, mais il se pourrait, Lionel Gougelot, que Philippe n'était pas celui que les agresseurs visaient réellement.
Par le biais d'un rendez-vous fixé sur un site de rencontre, les deux garçons, se faisant passer pour une jeune fille mineure, projetaient d'organiser une sorte d'expédition punitive contre un adulte soupçonné de vouloir abuser d'une adolescente. Avant le monstrueux passage à tabac, ils affirment avoir vérifié cette nuit-là que Philippe, leur victime, était bien celui qui avait répondu à la fausse annonce en l'appelant sur son portable. Alors, rien ne le confirme pour l'instant, d'autant que l'entourage de l'éducateur assure avoir reçu le témoignage d'un homme qui affirme être celui qui avait fixé le rendez-vous, Amine, un proche de la famille.
La personne nous a contacté, elle nous a envoyé un message. Elle va faire une déposition à la police. C'est une personne qui avait rendez-vous avec une fille au même lieu, à la même heure. Et Philippe, il allait juste chez son ami. Il l'a croisé par hasard. Il était là au mauvais moment et c'est tout.
Un témoignage qui là aussi doit faire l'objet de vérifications, notamment des examens de la téléphonie, mais un point essentiel pour les proches de la victime qui refusent l'idée que Philippe aurait pu se laisser aller à des rendez-vous avec une mineure. À Grande-Synthe, Lionel Gougelot, Europe 1.
Dans le Bas-Rhin, l'assaillant de Souffelweyersheim qui a blessé deux petites filles a été déféré en vue d'une mise en examen pour tentative d'homicide volontaire. Ses motivations restent floues. Hier, les élèves et les parents se sont recueillis devant le collège en souvenir de Madeleine, une adolescente de 14 ans, victime collatérale de l'attaque. Elle a fait un arrêt cardiaque pendant le confinement des élèves.
Une après-midi d'angoisse en plein cœur de Paris. Un homme menaçant de faire exploser sa ceinture d'explosifs s'est introduit dans le consulat d'Iran.
Il s'est rendu après plusieurs heures de négociations avec la brigade de recherche et d'intervention. Ces grenades étaient finalement factices. Mayalène Trémollet, ce n'est pas la première fois que l'homme tente de s'en prendre au consulat.
Il s'agit de Nicolas Kahem, un franco-iranien d'une soixantaine d'années, né à Téhéran. Il rejoint la France en 1979 pour y poursuivre un cursus universitaire à Paris. En réalité, l'individu était déjà connu des services de police depuis septembre dernier, après avoir provoqué un incendie devant le consulat d'Iran en mettant le feu à des pneus de voiture. Il avait alors été condamné à 8 mois de prison avec sursis, doublé d'une interdiction de paraître dans le 16e arrondissement. Son jugement en appel était attendu lundi prochain. On ne sait pas à ce stade s'il y a un lien entre l'incident d'hier et l'attente de son jugement. Lui a déclaré vouloir venger son frère lorsqu'il a pénétré dans le bâtiment hier après-midi. Muni d'un gilet explosif factice et d'une fausse grenade, l'individu, qui a été interpellé après une négociation avec la BRI, est actuellement en garde à vue. Il doit désormais être interrogé pour expliquer les motifs de son geste, qui reste encore flou pour le moment.
À Toulouse, l'imam du quartier d'Ampalo a été arrêté en vue de son expulsion. Selon nos confrères de la Dépêche, le ministre de l'Intérieur aurait pris l'arrêté d'expulsion exécution. L'imam de la mosquée dans Palo est de nationalité algérienne, installé en France depuis 1987. Il avait été condamné en 2022 pour des propos antisémites lors d'un prêche en 2017.
Europe 1, il est 6h et presque 5 minutes. Que s'est-il passé sur l'autoroute A13, aux abords de Paris, l'autoroute très fréquentée qui relie la capitale à la Normandie est fermée dans les deux sens depuis hier.
Et cela risque de bouchonner dimanche, notamment pour les retours de vacances en plein chassé-croisé. C'est le début pour la zone B, la fin pour la zone C, dont font partie les Parisiens. Attention au trafic, ce sera orange d'ailleurs dans les deux sens en région Auvergne-Rhône-Alpes, orange en Ile-de-France dans le sens des retours justement. Ce sera compliqué pour ceux qui arriveront à Paris en venant de l'ouest. L'autoroute est fermée entre Paris et Vaucresson depuis hier jusqu'à lundi, au moins. Éric Berdoatier, le maire de Saint-Cloud, il craint un week-end de galère sur sa commune.
On a une chance folle, c'est que pour l'instant, ce sont les vacances scolaires et qu'il y a quand même pas grand monde dans la commune. D'abord, un, on confirme que ça va rester fermé ce week-end. Deux, la DIRIF va essayer d'organiser, vous savez, ils ont des panneaux d'information sur l'autoroute. Et donc, ils vont essayer d'organiser très en amont, c'est-à-dire à partir de Rocancourt et peut-être même au péage de Mantes-la-Jolie, une information pour que d'autres itinéraires puissent être pris, la 14, la 15, la Nationale 12 ou la N118, pour éviter d'arriver dans un goulot d'étranglement qui serait le pont de Vaucresson, où là, l'autoroute est fermée.
Le maire de Saint-Cloud, au micro Europe 1 de Martin Lange. Des bombardements entendus cette nuit en Irak. Une base militaire du centre du pays aurait été visée. Le commandement militaire affirme ne pas être à l'origine des frappes. Israël ne commente pas. L'Ukraine ne peut plus attendre face à la pression russe. Volodymyr Zelensky demande à l'OTAN de livrer le plus rapidement possible des armes. Le président ukrainien s'exprime à la veille d'un vote clé au Congrès américain. Une aide de 61 milliards de dollars attendu depuis plusieurs mois par Kiev. Depuis des mois, les Républicains bloquent cette aide, mais le président républicain de la Chambre des représentants a opéré un surprenant revirement et va proposer ce soir au vote une série de textes pour débloquer les financements à Vivafried.
Oui, Mike Johnson, le président de la Chambre des représentants, doit user de stratagèmes pour faire voter ses aides. Au lieu d'une seule loi qui engloberait tout, il a décidé d'en faire voter trois. L'une prévoit 61 milliards de dollars pour l'Ukraine, notamment pour acheter du matériel militaire aux Américains. Mike Johnson ne veut plus tergiverser.
Franchement, je préfère envoyer des munitions en Ukraine que des Américains. Mon fils va commencer l'académie navale cet automne. C'est l'épreuve du feu pour moi, comme pour beaucoup d'autres familles américaines. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une blague.
Une autre loi accorde plus de 26 milliards de dollars à l'aide militaire pour Israël, ainsi qu'à l'aide humanitaire pour Gaza. Enfin, la troisième loi octroie 8 milliards de dollars à Taïwan. Un bricolage, mais qui permet de s'assurer le soutien de différentes factions. Les partisans d'Israël ne sont pas forcément les mêmes qui soutiennent l'aide à l'Ukraine. Pour faire passer la pilule, Mike Johnson a même prévu une quatrième loi visant à interdire TikTok. Pourtant, des parlementaires de sa majorité, fidèles de Donald Trump, ont annoncé qu'ils allaient essayer de le faire tomber comme son prédécesseur, ce qui pourrait plonger la Chambre des représentants encore plus dans le chaos.
À New York, un homme a tenté de s'immoler par le feu devant le tribunal où est jugé Donald Trump. Il a pu être sauvé des flammes avant d'être hospitalisé dans un état grave. La police a retrouvé des écrits complotistes près de lui. L'audience, elle, n'a pas été perturbée. Le jury est désormais au complet. Le premier procès pénal d'un ancien président américain entrera lundi, dans le vif des débats.
C'était le journal de 6h de Thomas Schnell. La météo, Anthony Kazmarek, et si vous n'avez pas encore mis le nez dehors, il fait froid.
Ouais, ne le mettez pas le nez dehors, finalement. Les températures sont très basses ce matin, alors on évite le gel en ville, contrairement à hier matin, mais enfin, ça n'est pas cher payé pour une fin avril, souvent entre 1 et 8 degrés ce matin. 1 degré à Beauvais actuellement, 3 à Orléans, 5 à Lille et à Toulouse. Ah non, ça n'est pas chaud. Température plutôt digne d'une fin février, début mars, 6 degrés seulement à Paris. Et puis quand même 8 à 17 déjà près de la Méditerranée, 15 à Toulon, 17 à Solenzara.
C'est déjà plus agréable.
C'est plus agréable. Et cet après-midi, vous aurez seulement entre 9 et 15 degrés sur la moitié nord et en Auvergne-Rhône-Alpes. 15 à 22 un peu plus au sud, 22 ce sera pour Perpignan, 18 à Bordeaux et Toulouse, 16 à Marseille, 14 à Limoges et Tours, 13 degrés pour Paris et Grenoble, 11 à Lille et Strasbourg et 9 la minimale pour Saint-Étienne et pour Londres.
On peut quand même rappeler qu'on est au cœur du mois d'avril, donc on est au cœur du printemps au final. C'est à peu près normal d'avoir cette météo-là.
Oui, c'est normal, même s'il manque 2-3 degrés par rapport au normal de saison. Ce qui est mieux par rapport à hier, c'est la couleur du ciel. Ah. Si vous êtes à l'ouest et au sud, vous aurez du soleil aujourd'hui. Bon, avec quelques brumes ou brouillards, ce qui est classique au printemps, c'est notamment le cas vers l'intérieur breton, vers le Poitou-Charentes et la vallée de la Garonne. Mais si vous êtes sur un bon quart nord-est, des Hauts-de-France jusqu'au Grand Est, de l'Île-de-France jusqu'à la Bourgogne-Franche-Comté
et jusqu'au nord des Alpes, ce sont encore les nuages qui vont dominer avec des averses surtout cet après-midi. Des averses orageuses aussi cet après-midi, mais pas ce matin, pour les Alpes-Maritimes et la Corse. Puis près de la Méditerranée, vous aurez aussi en plus beaucoup de vent, notamment le Mistral jusqu'à 100 km/h.
On ne peut pas tout avoir, hein, la température agréable et un peu de vent. Dans un instant sur Europe 1, le meilleur de Pascal Pro et vous, et puis les pronostics hippiques de Thierry Léger. Que l'on retrouve à 6h10. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Cédric, c'est sur l'hippodrome d'Anguin que va se courir ce quintet, une course aux trois attelés qui réunira 16 trotteurs âgés de 7 à 11 ans qui en découdront sur la distance de 2150 mètres avec un départ donné à l'aide de l'autostart. Et sur ce tracé de vitesse, il faut privilégier les chevaux s'élançant en première ligne avec Urella, le numéro 6, lauréate avec la manière d'un quintet similaire, le 15 mars sur le même parcours que celui qu'elle empruntera cet après-midi, et la facilité avec laquelle elle s'était imposée ce jour-là me laisse à penser qu'elle pourrait bien doubler la mise. On lui opposera les numéros 1 Sahara Girburn, qui n'aura qu'à répéter ce qu'il vient de réaliser par deux fois au Croisé-la-Roche puis à Vincennes pour conclure une nouvelle fois l'arrivée. 2 Gardner Shaw, nanti d'une position idéale derrière l'autostart, ce qui permettra à son driver François Lagadec de le courir caché le plus longtemps possible, sa tactique préférée. 7 Here We Go, très confirmé dans cette catégorie et qui sans incident peut être considéré comme un coup sûr dans les 5 premiers. Et 3 Greco Bello, certes absent depuis plus de 2 mois, mais qui dépend d'un entraînement sérieux, celui de Jean-Paul Marmion, qui n'aime jamais courir ce genre de course sans avoir une réelle chance. Enfin, les numéros 16 Arlegema, 13 Fonsi Deripré et 10 Grande Prêtresse compléteront ma sélection. Mon pronostic, 6, 1, 2, 7, 3, 16, 13 et 10.
Merci Thierry Léger.
Europe 1, Pascal Pro et vous.
Le meilleur de Pascal Pro et vous, le samedi matin dans Europe 1 Matin Week-end. Pascal Pro et vous, c'est de 11h à 13h. Et jeudi, l'équipe de Pascal Pro s'est félicitée des très bons résultats d'audience d'Europe 1. Bravo à tout le monde.
Je lui dirai les mots bleus, les mots.
11h45, je crois que si vous nous suivez depuis 11h, vous savez que nous célébrons les bons résultats d'Europe 1 avec notre ami Monsieur Boubou qui s'est mis en bleu aujourd'hui, qui fait le tour de la maison et qui est allé dans les étages. Nous sommes ici au 2e étage, au 3e étage à Europe 1, mais Madame Benke peut-être
est-ce que vous m'entendez?
Avec qui êtes-vous?
Ah, Pascal, ça y est. Bon, alors écoutez,
mais on vous voit pas.
Je suis...
Ouais.
Mais vous ne me voyez pas, mais vous m'entendez, non? C'est
je
la radio.
Vous entends. Bon. Oui, c'est de la radio,
voilà.
C'est vrai.
Oui, alors, voilà, c'est pas faux. C'est sympa de vous le rappeler. Bon, merci. Alors on est, je suis au 7e étage. Vous savez ce que c'est un peu le 7e
ah
étage?
Bah, c'est le 7e étage, c'est, attention, là, c'est là que c'est l'étage
non,
roi.
Je suis en haut de la tour. Je suis entouré de grands dirigeants, etc. Je peux vous dire qu'entre eux et moi, il y a un certain contraste. Hein. Ils me regardent comme un animal. Bon, allez, c'est pas grave. Oui, oui. Alors voilà.
Et vous
ce
êtes avec
passe,
qui?
C'est que. Alors, je suis avec les réseaux sociaux, etc. Ne vous inquiétez pas pour l'instant. Donc, je me dirige vers le bureau de Constance Benquet, hein, vous le savez.
Bien bon, sûr.
Voilà, la grande directrice, la grande présidente. Je joue un petit peu mon licenciement, on va le dire comme ça. Je suis en colon bleu intégral. Oh non, bon, allez, c'est pas grave. Allez, on y va. Faut avoir le courage, là. Bon, 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 bon. Alors, attendez, je me dirige. Tac, 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 tac. Là, c'est
ah
oula,
oui, parce qu'elle
est pas au bureau des grands dirigeants. Écoutez, je sais pas, c'est mitigé. Ah oui, on me regarde, mais vraiment, comme si j'étais un extraterrestre. Bon, allez, c'est pas grave. Bonjour, bonjour. Aïe, aïe, aïe.
Qui est là?
Toc,
qui
toc.
Est là?
Oh là là. Bonjour, Madame Benquet. Bonjour, alors attendez, vous savez ce qu'on va faire?
Qui est là? Qui est là?
Je suis devant Constance Benquet, Pascal, la grande patronne. Je lui donne un casque pour qu'elle vous entende. Oula, beau bureau, si je peux me permettre.
Il est tout bleu.
Je ne sais pas. Bonjour d'abord Constance, et on s'est vu tout à l'heure,
Pascal,
et félicitations évidemment de diriger cette grande maison comme vous la dirigez. Vous avez vu Monsieur Boubouk qui est devant vous? Vous avez vu?
Monsieur Boubouk me fait peur.
Ben oui, un petit peu.
Mais félicitations à vous surtout Pascal, parce que plus 48% sur cette tranche, c'est un très très beau record et on est très heureux. Mais ce qui me fait un petit peu peur, c'est que la dernière animation c'était l'âne pour Noël.
Oui.
Et là j'ai un peu l'impression d'être le bœuf pour les bons résultats.
Non, mais ça va, ça vous plaît quand même ce collant intégral bleu, oui ?
J'aime beaucoup, je crois que je vais le mettre peut-être. Je vais peut-être le mettre pour le prochain comité de direction.
Bon, merci en tout cas, Constance, de nous laisser libre à l'antenne, parce que la radio, c'est de l'humeur. C'est bien sûr de l'actualité, nous la traitons tous les jours, mais c'est la traiter d'une certaine manière, avec un peu de légèreté aussi, et avec des personnalités aussi particulières que notre ami Olivier, Monsieur Boubouk, merci de l'autoriser. Il y a peu de métiers dans lesquels un salarié peut aller voir sa patronne habillée tout en bleu, en lui disant tout va bien. Mais merci. C'est ça, moi je pense que c'est un état d'esprit la radio, et merci de vous permettre de garder cet état d'esprit, chère Constance.
Merci Pascal, et merci d'écouter les gens, parce que c'est pour ça que nous progressons, je pense.
Ben c'est vrai.
Et merci à Monsieur Boubouk de m'avoir fait peur en rentrant comme ça dans mon bureau.
Ben oui.
Bon. J'espère que vous n'allez pas me licencier quand même, hein. Non.
Je vais vous donner une prime.
Oh, je ne suis pas monté pour rien. D'ailleurs, il y a une grosse enveloppe. Ah bah ouais, Pascal, il y a une grosse enveloppe sur le bureau, c'est marqué Pascal Pro, je ne sais pas pourquoi.
En fait, il est en train de ressusciter Europe Stop. Il va piquer les enveloppes.
Exactement.
Il va piquer les enveloppes et c'est lui qui a gagné.
Je vais chercher dans mon porte-monnaie, je vais aider. Merci Pascal.
Bon, merci Constance.
Merci à vous, madame.
Et merci, bon, évidemment, Dona Vidal-Revel. Évidemment, monsieur Liberty, qu'on taquine un peu. Parce que c'est le directeur de l'antenne et on l'a vraiment, on leur remercie de l'accueil que nous avons eu ici dans cette maison.
C'était Pascal Pro et vous, du lundi au vendredi de 11h à 13h et en podcast sur Europe1.fr.
Vous écoutez Europe 1, il est 6h15.
Europe 1 matin week-end.
6h, 9h, Cédric Chasseur.
L'heure de retrouver Thomas Schnell pour le journal permanent.
1500 participants à la marche blanche réunis hier à Grande-Synthe près de Dunkerque, là où Philippe, jeune animateur de 22 ans, a été roué de coups, battu à mort. Dans la nuit de lundi à mardi, deux suspects ont été mis en examen et placés en détention, deux adolescents de 14 et 15 ans. D'autres sont toujours recherchés. L'enquête a été requalifiée en assassinat. Dans le Bas-Rhin, l'assaillant de Souffelweyersheim qui a blessé deux petites filles a été déféré en vue d'une mise en examen pour tentative d'homicide volontaire. Ses motivations restent floues. La garde à vue se poursuit pour l'homme de 61 ans qui s'est introduit dans le consulat iranien à Paris, entraînant l'intervention de la BRI. Une enquête est ouverte pour menace de mort. Il portait un gilet d'explosifs factice. En septembre dernier, il avait déjà tenté de mettre le feu au bâtiment. La marche contre le racisme et l'islamophobie, finalement autorisée dimanche à Paris. La justice suspend la décision de la préfecture, estimant qu'elle porte gravement atteinte à la liberté de manifester. Les autorités avaient évoqué un risque réel de trouble à l'ordre public. Les organisateurs saluent une victoire politique. Et puis en football, la victoire de Nice contre Lorient, ouverture de la 30e journée de Ligue 1. Ce samedi, les matchs à suivre. Nantes-Rennes à 17h, Lens-Clermont à 21h.
Merci Thomas Schnell. Dans un instant, sur Europe 1, la suite de Europe 1 Matin Week-end, avec la note secrète de Fabrice Lafitte, consacrée aux Black Eyed Peas. Et puis, bienvenue chez vous, Christophe Bordet. Cette question, les jeunes doivent-ils encore se tourner vers les métiers de l'immobilier? À tout de suite.
Europe 1 Matin Week-end.
Tout savoir sur la recherche et le développement avec Michelin. Michelin, ce n'est pas qu'une histoire de pneus, c'est aussi une tradition d'innovation sur Terre, en mer et même sur la Lune. C'est dans un instant.
Docteur, c'est terrible. Je ne sais d'hésiter entre la qualité ou le prix ou la qualité. Je suis totalement perdu. Aidez-moi.
Écoutez, Madame Latsou, je ne vois qu'un seul traitement, Akena.
Akena? Quel rapport?
Le rapport qualité-prix, Madame Latsou. Vous savez, chez Akena, il n'y a pas mieux, que ce soit pour les vérandas, les carports ou les pergolas.
C'est bon, Doc. Je suis guéri.
Akena, la reine des vérandas.
Et les pergolas.
Hey, trop de boulot. Tu sais si on a une bonne couverture dans cette boîte?
Ah oui, ici on a le top de la couverture, hein, en lin, en coton et même en marbre. C'est classe, mais c'est un peu froid.
Attendre des siècles une bonne couverture santé pour vos salariés, c'est du passé. Avec Aesio Mutuel, vos collaborateurs bénéficient d'une couverture santé adaptée à leur secteur d'activité et ses obligations et ont accès à des ateliers de prévention sur mesure. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Souscription, informations et conditions sur aesio.fr ou auprès de nos conseillers.
Europe 1 matin week-end.
6h, 9h.
Cédric Chasseur. Bienvenue chez vous.
Comme chaque samedi, les astuces et bons plans logement de Christophe Bordet. Belle mission encore aujourd'hui, Christophe.
Bonjour les amis, bonjour à tous.
Alors quand le logement va, tout va. Mais comme vous le savez... Ouais. vous nous le dites semaine après semaine, ouais. Le logement est en crise. Alors, est-ce que c'est encore une bonne idée, quand on est étudiant, de s'orienter vers les métiers de l'immobilier ?
Bah, écoutez, en tout cas, vous allez peut-être avoir le bac en poche bientôt. Vous êtes aussi peut-être parent ou grand-parent et vous êtes inquiet pour le petit dernier qui ne sait toujours pas ce qu'il veut faire dans la vie. Eh bien, effectivement, il y a quand même l'immobilier avec tous ses métiers. Hein, agent immobilier, promoteur, gestionnaire de patrimoine. On est dans le concret. Plusieurs milliers d'étudiants dans les filières logement chaque année, du bac plus 2 à la licence ou au master. J'ai demandé à Henri Buzy-Cazot, qui est le président de l'Institut du management et des services de l'immobilier, qui regroupe 2000 étudiants dans la France, quelles étaient plutôt les formations, les métiers qui sont toujours les plus prisés par les jeunes, parce que, évidemment, donc c'est la saison, c'est le moment de choisir, on y va.
La transaction continue à séduire, et c'est normal. Alors, aujourd'hui, un certain nombre d'entre eux voient la situation. Le marché a perdu beaucoup de sa vigueur, et donc, ils ne renoncent pas à leur envie de faire la transaction. D'ailleurs, je leur dis, renoncez jamais à vos rêves professionnels. Mais peut-être que pendant 2-3 ans, il va falloir peut-être vous intéresser à la gestion, et vous reviendrez à la transaction. La transaction reste un métier qui séduit. Et au fond, ce qui leur paie, c'est cette dimension de conseil qui est en train d'irradier dans tous les métiers. On n'est plus agent immobilier sans cette dimension-là, sans la dimension de conseil.
La dimension de conseil, c'est l'humain, ça. Le rapport à l'humain, c'est quand même très important, évidemment, dans ce métier. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les formations se font beaucoup en alternance, en apprentissage, alternance entre l'école donc, et l'entreprise qui vous accueille. Comment ça se passe concrètement, Henri Buzy-Cazot ?
L'entreprise qui vous accueille paye votre formation à 100% et en partie, elle en est elle-même remboursée puisqu'il y a des circuits de financement. Hein. Elle paye des cotisations et elle les récupère sous cette forme-là. Mais pour l'étudiant, la formation est gratuite. Alors, il lui reste des obligations de se loger, de vivre. Combien coûte une année en réalité ? Elle coûte 5, 6, 7, 8 ou 9 000 euros hein, selon le niveau. Et il est très clair que rares sont les familles qui peuvent acquitter des factures de ce niveau-là.
Et voilà, et comme l'État met la main à la poche, évidemment, c'est ce qu'on dit, effectivement, il y a plein de gens qui peuvent accéder à ces métiers.
C'est plus facile.
Bah, c'est quand même pas mal. La grande question, c'est quand même de savoir si on trouve facilement du boulot après les études, avec cette crise du logement. C'est ce qu'on a envie de savoir, en tout cas.
À 6 mois après la diplomation, on est à 100% d'intégration, un peu moins, on est à 96% pour être précis. Nos étudiants diplômés, de quelque niveau que ce soit, trouvent leur emploi.
Donc vous avez le diplôme, vous êtes quasiment assuré d'avoir un boulot dans les 6 mois qui viennent.
Quasiment. Bon, il faut faire attention quand même à une chose en ce moment. Attention, par exemple, dans le logement neuf, les promoteurs, ça licencie quand même pas mal. Donc ça ne va pas forcément être hyper simple dans les mois qui viennent. Le marché repart un peu dans l'ancien. Donc là, il y a peut-être moyen quand même de trouver plus facilement du travail. C'est pas simple, mais ce sont de très, très beaux métiers. On peut voir toute sa carrière à travers le logement. C'est quand même assez intéressant.
Voilà, si vous êtes intéressé, évidemment, la chronique est à retrouver sur europe1.fr. On se retrouve demain, Christophe.
Avec plaisir.
Bonne journée.
Bonne journée.
Il est 6h22.
La matinale week-end sur Europe 1 et dans ce studio, Fabrice Laffitte. Bonjour Fabrice.
Bonjour Cédric, bonjour à tous.
La note secrète chaque samedi et chaque dimanche dans laquelle vous nous livrez tous les petits secrets qui se cachent derrière une chanson.
Tous les secrets.
Et une bonne nouvelle aujourd'hui pour les fans du groupe californien Black Eyed Peas. Ils sont de retour en France aujourd'hui après 5 ans d'absence.
Et oui Cédric, pour une seule date exceptionnelle, ce sera ce soir sur la scène du Paris La Défense Arena qui se trouve à Nanterre. Mais c'est malheureusement déjà complet depuis quelques jours. Oui, plus de place. Mais rassurez-vous, Cédric, vous allez quand même pouvoir, dès maintenant, nous montrer vos talents de danseur.
Allez, c'est parti. C'est une musique qui est faite pour ça.
Ah oui, mais quel déhanché, la réincarnation de Michael Jackson, c'est pas possible. Alors, figurez-vous, cher Cédric, qu'un jour de 2008, le DJ français David Guetta reçoit un SMS du rappeur américain will.i.am, chanteur du groupe Black Eyed Peas, qui lui demande de l'appeler. Et au cours de cette discussion téléphonique, David Guetta fait écouter à will.i.am l'instrumental sur lequel il travaille actuellement. Et le rappeur américain lui dit aussitôt « Je veux cette putain de chanson pour mon prochain album ».
Le chanteur originaire de Los Angeles est plutôt cash.
Absolument. Et David Guetta, le DJ et artiste français boutique qui vend le plus de disques dans le monde, lui envoie par mail le fichier son pour qu'il puisse y apposer les paroles. Quelques jours plus tard, David Guetta s'envole en direction des États-Unis pour assister à l'enregistrement de I Got a Feeling dans un studio de Los Angeles.
I Got a Feeling qui sort dans le commerce le 21 mai 2009, ça passe le temps.
Et oui, je vois que vous avez de bonnes informations. Bravo Cédric. Et ce titre se classe numéro 1 aux États-Unis pendant 14 semaines consécutives. Et si vous voulez, maintenant, on va l'écouter.
Allez-y. Par le groupe américain Black Eyed Peas qui sera ce soir en concert à Paris, la Défense Arena. Demain, Fabrice, on parle de quoi ?
Eh bien, demain, Cédric, je vous invite, et chers auditeurs d'Europe 1 Matin Week-end, à danser un langoureux slow sur une composition de Prince.
Ça ne sera pas le même rythme.
Non, pas tout à fait. Merci, on ne marcherait pas sur les pieds non plus. Attention.
Non, on va essayer. Merci Fabrice. La
merci
à demain.
Cédric. À
demain. Et puis, ça nous réchauffera hein, avec ce temps plutôt frais pour la saison. 1 degré seulement actuellement chez Christine en Auvergne. C'est le message qu'elle nous a laissé sur notre page Facebook Europe 1 Matin Week-end. Thomas est dans l'Aveyron avec seulement 2 degrés. Et puis Jean-Yves est en Mayenne, encore sous la couette pour l'instant. Il a bien de la chance. Il a 4 degrés.
En se déhanchant, ça va bah mieux, oui. On se réchauffe.
Ça va nous réchauffer, effectivement. Jean-Yves qui nous félicite pour les audiences hein, qui ont été révélées cette semaine. C'est vrai que la famille Europe 1 s'agrandit encore. 223 000 nouveaux auditeurs nous écoutent déjà désormais tous les jours. Donc merci pour votre fidélité et votre confiance. C'est toujours un plaisir de vous accueillir à la radio
plus
tous les
de
jours.
2,3 millions d'auditeurs au total pour Europe 1. Merci de votre confiance. Merci de nous écouter chaque jour. Toutes les émissions de l'antenne qui fonctionnent. Et on est très très fiers d'être dans cette belle maison bleue qu'est Europe 1. sur évidemment Europe 1 Matin Week-end qui fonctionne aussi très bien. Et on remercie Lénaïque Monnier pour le travail qui est en vacances.
Oui.
Et tenez, on va saluer aussi Alban Le Prince qui est d'habitude là dans ce studio le matin, qui fête son anniversaire aujourd'hui. On lui souhaite un très joyeux anniversaire.
Oui.
On
en profite.
Bon, écoutez, on a écouté la chanson des Black Eyed Peas, ça a 15 ans.
C'est vrai, ça ne nous rajeunit pas.
I Got a Feeling, ça a 15 ans. On a l'impression d'être en sortie de boîte. Mais là, c'est pareil, ça fait 15 ans qu'on n'y est pas allé.
Allez, la suite du programme, Cédric.
La suite du programme sur Europe 1. Eh bien, on va parler de quoi ? On va parler d'un invité qui s'appelle Sylvain Grattalou, qui est spécialiste des produits immobiliers, des propriétaires notamment. Et il va se plaindre de la hausse de la taxe foncière qui va toucher tous les propriétaires. On va parler aussi des balades du week-end. On va aller à Chaumont-sur-Loire et on va aussi déguster du chou-fleur. Ça va être très très bon. On va se régaler. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque ? Non ? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel ? Prise de poids rapide ? Pieds et chevilles gonflés, fatigue excessive. Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie. Jusqu'au 30 avril, découvrez les séries limitées Audi Black Edition sur les modèles A1, Q2, Q3, A4 Avent et Q5 à partir de 370€ par mois avec apport. Profitez d'équipements d'exception comme le pack esthétique noir exclusif, le volant et les jantes Audi Sport et la caméra de recul sur l'Audi A1. Rendez-vous chez votre partenaire Audi ou sur Audi.fr.
Offre en LLD pour une Audi A1 Sportback 30 TFSI S-Tronic Black Edition. Premier loyer de 800€ réservé aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Banque coopérative, la Caisse d'épargne Île-de-France, ce sont 5000 femmes et hommes qui œuvrent au quotidien pour accompagner leurs clients et développer une économie durable. Jour après jour, la Caisse d'épargne Île-de-France poursuit sa mission, agir dans l'intérêt collectif et être utile à chacun. La Caisse d'épargne Île-de-France, une banque responsable, engagée au service de sa région.
Europe 1 Matin Week-end.
6h-9h, Cédric Chasseur.
Et il est 6h30 sur Europe 1, l'heure d'un nouveau journal. Avec Alexis Laflechère. Bonjour Alexis.
Bonjour Cédric. Bonjour à tous. L'autoroute A13 fermée entre Paris et Vaucresson au moins jusqu'à lundi. Une fermeture qui tombe mal avec le retour de vacances de la zone C dont Paris fait partie. Le point en début de journal.
Faut-il craindre pour la sécurité de nos plages cet été avec la réquisition des CRS pour les Jeux Olympiques ? L'inquiétude, vous l'entendrez, est grandissante chez les responsables de postes de secours. Illustration dans un instant sur une plage du Pas-de-Calais.
Et puis nous irons en Alsace à Souffel-Weyersheim près de Strasbourg. Strasbourg, une collégienne est décédée après un malaise cardiaque, prise de panique après l'agression au couteau de deux petites filles près de son établissement, établissement qui a pu rouvrir hier.
Juste après ce journal, nous partirons en balade avec vous, Vanessa Zah. Où est-ce que nous allons aujourd'hui ?
À Chaumont-sur-Loire pour l'incontournable Festival International des Jardins, bien sûr.
Et pour se sustenter, Olivier Pouls, qu'est-ce que vous avez prévu ?
Mais mission compliquée, je vais essayer de vous réconcilier avec le chou-fleur, il paraît que vous êtes fâché.
Sylvain Grattalou, invité conso à 7h20 aussi, spécialiste des produits immobiliers pour les propriétaires. On parlera de la taxe foncière. Ce sera après le journal et la tendance météo, Anthony Kasparek.
Avec encore des nuages et des averses sur un très large quart nord-est, mais si vous allez vers l'ouest et le sud, vous aurez du soleil avec des températures toutefois fraîches partout, entre 9 et 22 degrés cet après-midi.
A tout de suite, Anthony.
Europe 1.
À la une de ce journal, ce bazar en vue donc sur les routes franciliennes.
Et oui, puisque la zone C en termine avec les vacances scolaires, retour au travail et à l'école lundi, notamment pour Paris. Bison futé allume d'ailleurs le voyant orange ce samedi pour les retours en Île-de-France. Des bouchons qui devraient être amplifiés par la fermeture de l'A13, un axe très emprunté qui relie la capitale à la Normandie. Une bretelle fermée, Martin Lange, depuis jeudi soir, en raison de problèmes d'infrastructure sur la chaussée.
Oui, la faute à une fissure lézardant toute la chaussée de l'autoroute. Une fissure importante, jusqu'à 80 cm de profondeur par endroit. Elle a été découverte lors de travaux nocturnes et serait due à un mouvement de terrain, selon la préfecture des Hauts-de-Seine. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas encore la cause de ce mouvement de terrain. Éric Berdoati, le maire de Saint-Cloud.
On ne peut pas prendre de risque, hein, vu le nombre de véhicules qui passent. C'est des voiries à 100, 110 000 véhicules jour, hein, quand même. À l'heure où je vous parle, on ne sait toujours pas très bien quelle est la cause réelle de ce dommage sur la voirie. Et c'est une fois qu'on a bien identifié la cause qu'on peut essayer d'y remédier. mais tant que vous ne savez pas vraiment, vous n'engagez pas des travaux.
L'autoroute A13 est donc fermée dans les deux sens tout le week-end, tout comme le domaine national de Saint-Cloud, voisin de l'autoroute, son administrateur Brice Mathieu.
Traditionnellement, on est une voie de délestage hein, de la 13 quand il y a des bouchons. On ferme le domaine à la voiture, quelle qu'elle soit, jusqu'à lundi inclus. Ça nous a semblé la meilleure décision vu les mouvements attendus ce week-end.
Les autorités conseillent donc d'éviter l'ensemble du secteur, surtout pour les retours de vacances, et de privilégier l'A14 au nord et la N118 au sud. La réouverture complète de la 13 n'est pas envisagée avant le courant de la semaine prochaine.
Merci Martin Lange. Réouverture effectivement potentiellement mardi au plus tôt. Et en attendant, à noter que le député Renaissance des Yvelines, Carl Olive, propose une solution. L'élu vient de saisir le préfet des Yvelines pour demander la gratuité de l'A86 et surtout de l'autoroute A14. A souligner également ce voyant orange allumé pour les retours et pour les départs en Auvergne-Rhône-Alpes.
Alors Alexis, il y a les ponts de mai qui vont arriver, oui. Puis ensuite les grandes vacances d'été. Vous serez nombreux à prendre la direction de la plage, des plages qui pourraient être moins surveillées cette année.
Oui, à cause des Jeux Olympiques de Paris 2024. Pour couvrir l'événement, de nombreux CRS sont réquisitionnés. Habituellement, l'État en met 270 à la disposition des villes côtières. Leur absence va donc poser un problème, laissant les nageurs-sauveteurs, qui sont des civils, seuls à effectuer cette tâche. Dans le Pas-de-Calais, Yannick Vérez gère 7 postes de secours sur les plages de Camier. Et à 2 mois de l'été, il doit donc faire une croix sur les 12 CRS de l'été dernier.
On m'enlève à peu près entre 20 et 25% de mon effectif. Donc moi maintenant, un problème sur la plage, je vais être obligé d'appeler la gendarmerie et l'intérieur des terres, qui ne sont pas forcément équipés pour aller intervenir sur un problème, une incivilité à marée basse. Autre chose, il faut savoir que depuis les attentats qu'on a eus à Tunis, il a fallu armer nos nageurs-sauveteurs CRS. Parce qu'il y avait donc toujours cette vigilance attentat, on y est d'ailleurs toujours, encore en rouge vif même. Donc là, du jour au lendemain, on nous avait dit, il faut armer les CRS, c'est urgent. Puis là, du jour au lendemain, on nous enlève les CRS armés. Donc voilà, si demain il y a un gros problème sur la plage, il n'y aura personne pour intervenir.
Des propos recueillis par Florence Billard.
Allez, direction l'Alsace où l'assaillant de Souffelweiersheim dans le Bas-Rhin a été présenté hier après-midi à un juge.
Et son placement en détention provisoire a été requis par le parquet. Âgé de 30 ans, cet homme atteint de troubles mentaux a attaqué et blessé au couteau 2 fillettes près d'une école jeudi. Les 2 victimes ont pu s'en sortir, mais cette agression a fait une victime collatérale. Une collégienne, confinée dans son établissement durant l'intervention des forces de l'ordre, a fait une crise de panique. Elle est décédée d'un arrêt cardiaque. Son collège a rouvert ses portes hier dans une ambiance très lourde, Mélina Fachin.
Les bouquets de fleurs et les petits mots en hommage à Madeleine, c'était son nom, s'amoncelle devant la grille du collège. Ses amis décrivent une jeune fille toujours souriante, appréciée de tous, mais même ceux qui ne la connaissaient pas personnellement, comme ses élèves de 6e, sont touchés.
Ça reste gravé dans notre mémoire et ça reste traumatisant.
Personne ne sourit aujourd'hui. Notre prof de SVT, elle nous avait dit qu'elle était adorable, gentille et qu'elle trouverait sûrement un beau métier plus tard et qu'elle allait aller loin dans la vie.
Pour les parents d'élèves aussi, évidemment, c'est la sidération.
C'est le cœur qui parle. Hein. On se demande comment ça peut encore exister aujourd'hui, des choses comme ça.
On est terrassés. Et là, c'est vraiment un terrible concours de circonstances qui fait que cette petite fait un malaise cardiaque. Enfin, c'est atroce. Hein.
Une cellule psychologique est ouverte depuis ce matin dans l'école et le collège pour les élèves, mais aussi leurs parents. Julien et son épouse, qui ont un fils en CE2, s'y sont rendus.
Tous les deux, on a besoin d'y aller. On a besoin de mettre des mots sur ce qu'on a vécu, ce qu'on a ressenti.
Une cellule psychologique qui restera ouverte lundi, premier jour des vacances scolaires.
C'était Mélina Fachin pour Europe 1. Un moment à présent très attendu par tous les détenteurs de Bitcoin. Cette nuit, la vitesse de production de la crypto-monnaie a été divisée par 2.
C'est ce qu'on appelle le halving. Ça se passe tous les 4 ans. Une manipulation qui doit permettre d'éviter la surchauffe en réduisant le nombre d'unités en circulation. Alors, Barthélémy Philippe, quelles conséquences pour les investisseurs ?
Eh bien, il y a un mois, le cours du Bitcoin a battu son record historique à près de 70 000 euros. Depuis, la valeur de la reine des cryptos a reculé. Elle tourne autour de 60 000 euros actuellement. Mais le halving pourrait changer la donne. Les précédents, en 2012, 2016 et 2020, ont été suivis d'un rebond, même s'il y a un peu plus d'incertitude cette année, selon Stéphane Van Uffel, conseiller en gestion de patrimoine chez Net Investissement.
Ça a déjà été quand même très anticipé, je pense, par les investisseurs. Ils ont acheté et donc la valeur a déjà augmenté. Donc je pense qu'il va y avoir un effet à terme. Et c'est logique, hein, puisqu'il y a division par 2 de la possibilité de création de nouveaux actifs. Forcément, la rareté est donc de plus en plus accentuée. Mais on a de bonnes perspectives dans les prochains mois.
Et selon la plupart des spécialistes, le Bitcoin pourrait passer la barre des 90 000 euros d'ici la fin de l'année.
Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1.
Pour terminer ce journal, cet appel à l'aide très sérieux, celui des boulistes de Montmartre, menacés d'expulsion par la mairie de Paris.
Le Conseil d'État a tranché il y a 15 jours pour que les terrains situés sur la célèbre colline parisienne soient vendus à un hôtel de luxe qui veut s'agrandir. Alors depuis hier soir et pour tout le week-end, les adhérents, 300 environ, se mobilisent pour tenter de sauver le CLAP, c'est le nom du club. Week-end de la dernière chance pour Maxime Liogier. Il est responsable de la communication.
Nous, on fait partie du patrimoine de Montmartre. C'est l'âme de Montmartre là, qui est remise en cause. Et c'est l'âme de Montmartre qui disparaît au profit des talons aiguilles, du surtourisme, de la gentrification. Alors que nous, on se bat pour la vie de quartier, le sport. Ce week-end, on reste sur place. Ce n'est pas au nom du CLAP, c'est les licenciés qui ont décidé de ne pas respecter cette décision et de planter des tentes et de rester sur place. Eux, ils veulent pas voir le CLAP mourir. Ils veulent pas voir le terrain du CLAP tomber dans les mains d'un hôtel de luxe. Nos licenciés ne veulent pas partir. Donc oui, elles sont remontées et ils comprennent pas la décision d'une mairie de gauche qui, à 3 mois des JO, veut expulser un club de pétanque, un club sportif. Ça n'a pas de sens, en fait.
Des propos recueillis par Geoffrey Branger pour Europe 1. Et on termine avec un mot de sport. Il est décidément très très fort en Formule 1. Max Verstappen sur Red Bull, leader du championnat du monde, a remporté ce samedi la course sprint du Grand Prix de Chine disputée sur le tracé de Shanghai. Il partira demain, si je ne dis pas de bêtises, en pole position.
C'est bien ça, de la course. Il y a lui et les autres, finalement, en Formule 1. Merci beaucoup, Alexis de la Fléchère. On vous retrouve dans quelques minutes pour le journal permanent. Anthony Casma, j'ai un dicton pour vous. S'il tonne à la Saint-Simon d'avril, vendangeur prépare tes barils. Est-ce qu'il y a de l'orage aujourd'hui prévu ?
Eh bien oui, c'est prévu. C'est prévu dans le nord-est, très localement, sous les plus fortes averses, mais aussi entre les Alpes-Maritimes et la Corse, surtout cet après-midi. Ce matin, c'est plutôt calme, mais les averses vont arriver sur ce large quart nord-est en allant des Hauts-de-France jusqu'au Grand Est, de la Bourgogne-Franche-Comté jusqu'à l'Auvergne-Rhône-Alpes. L'Île-de-France ne sera pas concernée ce matin, mais elle le sera cet après-midi avec de plus en plus de nuages et un vent de nord assez désagréable qui renforce l'impression de frais ou de froid, jusqu'à 50 km/h. Du vent aussi près de la Méditerranée, le Mistral notamment jusqu'à 100 km/h, mais là vous aurez du soleil en dehors donc de la Côte d'Azur et de la Corse, et puis beau soleil aussi sur toute la côte ouest, de la Bretagne au Pays Basque, après quelques nuages bas, quelques brouillards ce matin, le tout avec donc de la fraîcheur, 9 degrés seulement à Saint-Etienne cet après-midi, 11 à Lille, à Strasbourg et Clermont-Ferrand, 12 à Lyon, 13 à Grenoble et à Paris, 16 à Marseille, 18 à Bordeaux et Toulouse, et quand même 22 pour Perpignan.
Ouais, c'est un joli chiffre, merci Anthony Casmarek. Vous ne bougez pas, dans un instant, l'invité conso d'Europe 1 Matin Week-end, Sylvain Grataloup, président de l'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers. La taxe foncière va encore augmenter, cela va alourdir les charges qui pèsent sur les propriétaires. Lui, il a une idée pour que cela change. À tout de suite.
Europe 1. Jusqu'au 30 avril, découvrez les séries limitées Audi Black Edition sur les modèles A1, Q2, Q3, A4 Avent et Q5 à partir de 370 euros par mois avec apport. Profitez d'équipements d'exception comme le pack esthétique noir exclusif, le volant et les jantes Audi Sport et la caméra de recul sur l'Audi A1. Rendez-vous chez votre partenaire Audi ou sur Audi.fr.
Offre en LLD pour une Audi A1 Sportback 30 TFSI S-Tronic Black Edition. Premier loyer de 800 euros réservé aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
Leclerc, bonjour.
Salut. Moi, j'ai hyper envie de faire un fantabuleux fantapéro avec tous mes fantas amis.
Justement, on est en pleine Fanta promo.
Fantastique.
Alors, pour tous les fans de Fanta, le deuxième pack de 6 canettes de 33 centilitres de Fanta orange est à moins 50% du 16 au 27 avril pendant l'opération Nos Super Pouvoirs d'Achat. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Existe aussi au goût citron, mangue et fruits du dragon. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Peugeot. Vous connaissez le dicton « On n'a jamais deux fois l'occasion de faire une première bonne impression ». Et quand on est pro, la première impression, c'est aussi son véhicule. Alors venez vite découvrir la nouvelle gamme utilitaire Peugeot. Démarquez-vous avec son design distinctif et sa modularité exceptionnelle. Et avec près de 20 systèmes d'aide à la conduite, vous arriverez chez vos clients dans les meilleures conditions pour faire une deuxième bonne impression. Et jusqu'au 30 avril, Peugeot vous offre 3 mois de loyer pour tout achat d'un nouvel utilitaire en crédit bail. C'est le moment d'en profiter.
Voir conditions en point de vente et sur Peugeot.fr.
Europe 1 Matin Week-end, 6h-9h. Cédric Chasseur.
Il est 6h42 sur Europe 1, c'est l'heure de l'interview conso d'Europe 1 Matin Week-end. Et ce matin, Cédric Chasseur, vous recevez l'avocat Sylvain Grataloup.
Bonjour Sylvain Grataloup.
Bonjour Cédric Chassin.
Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes le président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers, l'UNPI. On va parler avec vous de la taxe foncière. Les villes ont voté ce qui sera la taxe foncière pour l'année 2024. Augmentation moyenne de 3,9%. Ça, c'est pour l'ensemble du territoire. Évidemment, c'est très disparate. Il y a certaines villes qui ont décidé de ne pas y toucher. D'autres, au contraire, qui ont décidé de l'augmenter parfois de plus de 10%. Comment vous interprétez ces chiffres pour l'année 2024? C'est une nouvelle hausse.
Alors déjà, les 3,9% dont vous parlez n'est pas une moyenne. Hein, c'est un chiffre qui concerne tous les Français. C'est-à-dire que tous les Français propriétaires verront une augmentation de leur taxe foncière de 3,9%. À ces 3,9% s'ajoute la part communale et le taux communal qui, lui, est laissé à la disposition des communes. Et là, on constate qu'il y a, pour 2024, des délibérations. Alors, on ne les a évidemment pas toutes, mais un certain nombre de délibérations qui...
C'est les conseils municipaux qui votent.
Les conseils municipaux, absolument, qui ont voté une augmentation de ces taxes foncières qui vient s'ajouter à ces 3,9%. Alors, ce phénomène n'est pas nouveau, puisqu'on l'avait constaté l'année dernière d'une façon significative, à la fois sur la base locative qui était de 7,1, donc là on est à 3,9, mais les communes aujourd'hui commencent à prendre le processus qui consiste à augmenter leur taux qui est laissé à leur disposition.
Oui, ils s'en servent pour avoir de nouvelles recettes, mais finalement c'est aussi une façon pour eux de récupérer de l'argent qu'ils ne peuvent pas récupérer ailleurs. Ils se servent un peu finalement des propriétaires pour financer leur budget.
Un petit peu, beaucoup, oui, effectivement. Alors, je comprends, quand on est responsable d'une collectivité, on a des obligations. Le maire d'une commune doit assurer un service collectif, un service public, doit créer des équipements collectifs, doit permettre à ses concitoyens, ses administrés, de bien vivre dans sa commune. Et pour ça, il faut des recettes et des ressources. Depuis la disparition de la taxe d'habitation, ces ressources ont disparu. Donc il reste quelques leviers, notamment la taxe foncière, pour pouvoir non seulement équilibrer un budget de fonctionnement, mais aussi pour envisager des investissements. Et évidemment, la taxe foncière est le levier qui a été choisi par les maires pour pouvoir obtenir des financements que la taxe d'habitation ne fournit plus.
Et je le disais en préambule, c'est pas la première hausse cette année, hein. C'est une hausse constante presque depuis plus de 10 ans maintenant.
Ah oui. Depuis plus de 10 ans, on est à plus de 26,3 en moyenne, 26,3% d'augmentation de la taxe foncière. À la fois, en ce qui concerne la base locative, on était à 0,1, je crois, autour en 2020. Aujourd'hui, on est en 3,9, en étant passé par 7,1%. Et les communes, aujourd'hui, eh bien, augmentent de façon considérable leur taux. Pour Nancy, cette année, on est à plus de 17%, 17,7%. Donc, si on l'ajoute, ça fait 13,8 pour la commune en tant que telle. Pour Villeurbanne, c'est une augmentation de 10%. Là aussi, c'est énorme, puisqu'on est à plus de 3 points de ce qui était décidé préalablement. Donc, on a une vague d'augmentation de la taxe foncière qui est phénoménale et qui sert à financer des équipements collectifs et des services publics à la disposition de tous les administrés.
Sylvain Grataloup, je rappelle que vous êtes le président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Vous faites une proposition, j'ai vu passer plusieurs de vos interviews, de faire participer les locataires à la taxe foncière. Comment ça marcherait ?
Mais alors d'abord, est-ce que c'est choquant? Je lis beaucoup de choses en me disant, mais ce n'est pas tendance du tout. Et puis, les propriétaires sont
marquerait
effectivement...
que dans le ton de ma question, il y avait peut-être un peu aussi de ça.
Mais c'est pour ça que ce que vous n'avez pas verbalisé, j'essaie de répondre à ça. Évidemment, si vous voulez, ça peut être choquant, mais ça ne l'est pas. La taxe d'habitation était payée par qui? Par tous les occupants, quels qu'ils soient, c'est-à-dire occupants en qualité de propriétaire, mais également en qualité de locataire. Et ce prélèvement obligatoire servait à financer des équipements collectifs et des services publics au service de tous les administrés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une commune dont, avec laquelle on est particulièrement exigeante, notamment en termes de nouvelles mobilités, de transport, etc. Et il faut bien financer tout cela. Et on ne demande qu'à une seule catégorie de la population de financer cela. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la taxe des ordures ménagères, elle est sur la taxe foncière, mais elle est bien récupérée sur le locataire. Ce n'est quand même pas aux propriétaires de financer les modalités de débarrassage des ordures ménagères. La taxe foncière s'inscrit dans ce schéma-là, comme l'était la taxe d'habitation, c'est-à-dire que tout occupant d'un bien, quelle que soit sa qualité, donc en l'occurrence propriétaire non occupant, n'a pas à financer cette taxe foncière, mais que celui qui bénéficie des services publics et des équipements collectifs puisse participer.
Donc il y a une certaine logique à vos yeux.
Mais c'est pas une logique, c'est la justice, tout simplement. c'est une simple justice et qui va au-delà de cette simple justice, c'est-à-dire un rééquilibrage des choses. Là, aujourd'hui, c'est un focus sur la taxe foncière qui nous préoccupe vraiment, mais tout ça s'inscrit dans un mouvement qui est extrêmement lourd, à savoir un encadrement des loyers dans un certain nombre de collectivités. Donc quand vous avez, notamment pour les propriétaires bailleurs, vous avez des recettes en moins et des charges en plus, il y a un moment donné, le déséquilibre est très significatif. Que les propriétaires contribuent à aider ceux qui sont en charge de notre société, pouvoir public au sens large, ça me semble normal. Mais ce qui est absolument honteux, c'est que ce soit les seuls à participer à cela.
Faut que ce soit un effort collectif.
Faut que ce soit un effort collectif. Et on peut décliner ça, notamment, par exemple, pour l'IFI, qui est absolument un impôt honteux, c'est-à-dire c'est un impôt sur le capital, mais que le capital immobilier. Et alors même, et c'est là où on vit dans un système qui est complètement désorganisé et on ne pose pas les bonnes questions, quand on est propriétaire bailleur, on participe à la vie de l'État. C'est-à-dire qu'on loge des concitoyens, on rénove un parc immobilier qui est vieillissant. Donc il y a toute une action, je veux dire, économique du propriétaire bailleur que n'a pas celui qui est propriétaire de yacht ou d'œuvres d'art qui, lui, ne paye pas d'impôts.
Sylvain Grattalou, il nous reste une petite minute. On a parlé de la hausse de la taxe foncière, notamment pour la part qui concerne les communes. Cette hausse n'est pas sujette à un plafonnement. Est-ce qu'il faudrait encadrer ces hausses des taxes foncières pour les communes?
Le mot encadrement me gêne toujours un petit peu parce que on a l'impression qu'on fige les choses. Aujourd'hui, on est dans une société qui est en mouvement et on doit avoir des ressorts ou des variables d'ajustement. Il y a une paupérisation des propriétaires, une paupérisation alors même que la masse des propriétaires constitue la France moyenne. Et c'est grâce à cette France moyenne que la croissance peut repartir. Ça va bien au-delà que la simple protection ou défense du propriétaire.
On l'aura bien compris. Merci Sylvain Grattalou d'être venu dans notre studio, président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Vous étiez ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous.
Merci.
Et cette interview est à retrouver partout en podcast sur europe1.fr et sur l'application Europe 1. Il est 7h10.
Europe 1 matin week-end.
6h-9h.
Cédric Chasseur.
Et on fait un point sur l'actualité avec Alexis de la Fléchère.
L'imam algérien Mohamed Tataïat, qui officie à Toulouse, expulsé vers l'Algérie. Expulsion suite à sa condamnation pour provocation à la haine et à la violence envers la communauté juive. Sur X, le ministre de l'Intérieur a fait valoir qu'une nouvelle fois, la loi immigration avait permis d'expulser dans son pays d'origine en moins de 24 heures un prêcheur de haine. Dans le Nord, la piste du guet-apens se confirme. Deux mineurs de 14 et 15 ans ont été mis en examen pour assassinat et placés en détention provisoire. Dans l'enquête sur l'agression mortelle de Philippe Kopman, ce jeune homme de 22 ans, battu à mort mardi à Grande-Synthe. Les suspects sont soupçonnés d'avoir tendu un piège à la victime sur un site de rencontre. Le Premier ministre libanais ainsi que le chef de l'armée libanaise reçus hier à l'Élysée. Emmanuel Macron, le président de la République, leur a assuré qu'il ferait tout pour prévenir la montée des violences entre le Liban et Israël. Enfin, la 30e journée de Ligue 1 de football a débuté hier soir avec la victoire de Nice. Les Niçois ont battu Lorient 3-0. Les Aiglons consolident leur 5e place en attendant de disputer un match en retard mercredi à Marseille.
Merci Alexis de la Fléchère. Dans un instant, juste après la pub, on vous emmène en balade avec Vanessa Zah et Olivier Pouls. Ça tout de suite.
Europe 1.
Et si vous aviez l'occasion de rouler en première classe au prix de la seconde? DS Automobile présente le surclassement en DS3 Crossback d'occasion. Car si ce n'est pas la destination qui compte, mais bien le voyage, pourquoi vous contenter de bien quand vous pourriez avoir mieux? Jusqu'au 30 avril, vivez une expérience de conduite premium à bord d'un DS3 Crossback E-Tense 100% électrique d'occasion à partir de 199€ par mois. Surclassez-vous avec DS Certified. Voir conditions sur dscertified.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vigio Confucius. Tu vois, toi qui travailles à ton compte, la mutuelle de demain te permettra d'être indemnisé si t'es arrêté.
Ok, ben, ta mutuelle de demain m'aurait bien servi aujourd'hui, en fait, parce que là, mes clients, ils comprennent rien à ce que je dis.
Être obligé de travailler quand on est arrêté, c'est du passé. Avec Aesio Mutuelle, les professionnels bénéficient de garanties santé ou prévoyance adaptées à leur statut, comme l'indemnisation perte de revenus en cas d'arrêt de travail. Aesio Mutuelle, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Informations et conditions en agence ou sur aesio.fr.
Europe 1 matin week-end, 6h-9h. Cédric Chasseur.
Et si nous partions en balade, mes compagnons pour ces prochaines minutes sur Europe 1, Vanessa Zah et Olivier Pouls, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Vanessa, cap sur le centre Val-de-Loire. Il y a des petits oiseaux qui chantent pour l'incontournable Festival International des Jardins de Chaumont-sur-Loire qui ouvre mercredi.
Oui, à quelques kilomètres de Bois et d'Amboise. C'est à 2 heures en voiture de Paris. Chaumont-sur-Loire, bah, c'est un lieu absolument extraordinaire. Déjà parce qu'il est chargé d'histoire. Catherine de Médicis, Diane de Poitiers en étaient les propriétaires. Et puis, il y a eu aussi quelqu'un de très important, la princesse de Breuil. Et c'est elle qui a fait de Chaumont un peu l'épicentre de la belle époque. Donc, c'était un lieu de fantaisie avec des fêtes, des chasses, des reines, des rois. Toujours de la musique, du théâtre. Et aujourd'hui, cette vie culturelle qui était déjà dans le passé, eh ben, elle perdure avec ce festival qui est à la fois une ode à la nature, mais aussi à l'art.
Un festival qui existe depuis plus de 30 ans, mais qui arrive à se réinventer chaque année. Le thème cette année, c'est quoi ?
Le jardin source de vie. En fait, il ne peut exister sans eau. Donc, s'il y a moins d'eau, il y a moins de pollinisation.
Bah là, en ce moment, il existe bien, là.
Hein. Là, on l'a bien. Ouais. On est bien d'accord. On l'a bien vu pendant 3 mois, l'eau. Et donc, s'il n'y a pas de pollinisation, il y a moins d'arbres fruitiers, moins d'insectes. Hein, vous savez, 80% ont disparu. Donc, ce jardin, il faut le préserver. Et Chantal Collet-Dumont, qui est la directrice du festival, elle a choisi des œuvres pour nous sensibiliser. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est le jardin pastoral. Alors là, c'est le végétal et l'animal qui cohabitent. En fait, la laine de mouton est utilisée comme paillage organique.
Ah oui.
En fait, elle aide le végétal à lutter contre les variations climatiques et la sécheresse qui nous attend. En fait, la laine, elle peut porter 30% de son poids en eau et sans être humide.
Est-ce que vous avez un deuxième coup de cœur, Vanessa ?
Alors, le jardin des murmures, des arbres qui sont entourés de très belles enveloppes en béton écologique, bas carbone, blanc, sur lesquels donc des sillons peuvent se développer. C'est très esthétique. Et puis, c'est une manière aussi de montrer que la nature peut aussi cohabiter avec la ville.
Et si on a envie de rester dormir en pleine nature, où est-ce que je pose mes valises ?
Dans le domaine.
Directement.
À l'hôtel du Bois des Chambres, toute la vie tourne autour d'un jardin, de l'accueil au restaurant, du restaurant aux chambres. Même parfois de la chambre au lit, ça c'est une surprise. Et le restaurant s'appelle le Grand Chaume, basé sur la naturalité. Olivier, je pense que ça vous plairait.
Ça me va très bien.
Et toutes les informations, évidemment, retrouvées sur europe1.fr. Olivier Pouls,
oui.
Bon, je dois avouer que je ne raffole pas forcément du produit du jour que vous nous avez réservé, mais il en faut pour tous les goûts. Vous allez nous parler du chou-fleur.
Non, mais vous êtes un traumatisé du chou-fleur de cantine, c'est ça ?
Évidemment.
On l'a tous été un petit peu, malheureusement. Et pourtant, je peux vous dire que c'est un légume qui a beaucoup de ressources. Alors, bon, il était déjà consommé du temps des Romains, qui l'appréciaient beaucoup. Et ensuite, peut-être à cause des cantines de l'époque, j'en sais rien, il est tombé dans une espèce de mépris gastronomique pendant des siècles. Et il a fallu attendre Jean-Baptiste de la Quintigny, le jardinier du roi Louis XIV, qui lui a redonné ses lettres de noblesse. Et qui a planté ce légume à Versailles en ramenant des graines de Chypre. Et c'est Louis XV, surtout, qui en raffolait et qui l'a, on va dire, remis au goût du jour, repopularisé. Aujourd'hui, il existe de nombreuses variétés de choux-fleurs, dont certaines sont même très colorées, elles sont plutôt à la mode.
C'est vrai, violette aussi.
Exactement, verte, blanche. Et c'est la Bretagne qui est la première région productrice de choux-fleurs de France. Alors, ils se consomment aussi bien crus qu'en gratin, mais pas forcément à la cantine. On en fait des purées et aussi un délicieux potage, la fameuse crème du Barry, élaborée donc par Louis, par l'épouse de Louis XV, chou-fleur, crème, avec bouillon, et le tout est lié au jaune d'œuf. C'est un grand classique de la cuisine française. On le choisit avec des feuilles bien vertes qui l'enrobent bien. Et moi, je vous propose une recette de chou-fleur assez tendance, un chou-fleur rôti aux épices.
Oh, original.
C'est tenté, je pense.
Allez.
Ça peut peut-être vous réconcilier. Alors, c'est très simple à faire. Un chou-fleur, une belle cuillère à soupe d'épices. Alors, prenez du razel à noud, du curry, du paprika, ce que vous avez sous la main, et 50 grammes de beurre. Vous allez enlever les feuilles vertes, évidemment, du chou-fleur. On le laisse entier, c'est très important. On le pré-cuit dans un grand volume d'eau. environ une vingtaine de minutes. Il ne faut pas qu'il soit complètement cuit, il soit à moitié de sa cuisson, ou alors à la vapeur. Et ensuite, on fait fondre le beurre, on rajoute les épices, et avec un pinceau, on badigeonne bien l'ensemble de ce chou-fleur. Ensuite, on le met au four à 200 degrés pendant 10 minutes, un quart d'heure, et régulièrement, on le réarrose avec ce beurre. Ça va faire une espèce de petite croûte. Vous avez le dessus du...
Jolie coloration.
Voilà, le dessus du chou-fleur qui va devenir rôti et puis il sera fondant à l'intérieur avec ce côté épicé. Je vous garantis que ça peut vous réconcilier.
Non. Je vous promets d'essayer cette semaine et je vous dirai ce que j'en pense, Olivier.
Merci.
Merci beaucoup et merci Vanessa Zaza. Bonne journée à tous les deux.
Et vous retrouvez évidemment ces idées de recettes et de balades sur europe1.fr. Tout à l'heure, comme tous les samedis, de 13h à 14h sur Europe 1, c'est Isabelle Morizet qui vous attend pour Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle fait tomber le masque dans cette émission révèle les mille et une facettes de la vie de son invité. Aujourd'hui, elle recueillera les confidences de l'ancienne animatrice et désormais influenceuse Véronique Aloubry. Elle viendra présenter son livre « La vie m'a réservé bien des surprises » aux éditions Le Duc. La
suite du programme, Cédric. Et bien dans une petite minute maintenant, un nouveau journal avec Thomas Chenel, le journal de 7h. À tout de suite.
Europe 1 matin week-end. Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100€ par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99€ par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1 584€ après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accordiaque, voir fr.renew.auto. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Leclerc, bonjour.
Bonjour, j'ai besoin d'un petit coup de main avec votre Switch.
Oui?
Je suis toujours à la traîne derrière mon fils de 6 ans à Super Mario. Vous pouvez m'aider?
Persévérez, vous allez progresser. Et du 16 au 27 avril, pendant l'opération de super pouvoir d'achat chez Leclerc, la Nintendo Switch OLED avec le jeu Super Mario Bros. Wonder est à 354,65€. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Console vendue seule au prix de 310€.